bande originale, oui, oui. Soyez les bienvenus.
Bonjour, bienvenue.
On est dans la bande originale avec cette semaine de vacances scolaires. Peut-être de vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'en prendre, mais pas de vacances pour réécouter les meilleures émissions, les meilleurs moments. Philippe Jean, ça dit quelque chose ou pas?
Daniel,
je te réveille.
Philippe Jean.
Allô.
Non, tu vois pas ce que
c'est, ce qu'il a fait.
Bah, il est venu. Il est venu. Il nous a présenté son dernier livre.
Oh, on aurait dû le lire.
Double Nelson.
Alors Leïla l'a lu.
Voilà.
Moi aussi.
Leïla l'a lu.
Et c'est notre invité. Il est cultissime d'ailleurs. C'est Philippe Jean, jusqu'à midi et demi sur Inter.
Je sais pas qui c'est.
Parolier, mais romancier, de nouvelles, de scénarios de films, enfin bon bref, une carrière absolument incroyable, très très riche, très très dense, que l'on évoquera avec lui, dont surtout son dernier roman, Double Nelson, d'où...
Daniel.
Oui.
Ah, c'est
Nelson. Captain of the Heart.
Exactement, mais comment s'appelle le groupe ?
Pas du tout.
Nelson. The Nelsons ?
Non.
De Mandelas.
Donc t'as la bonne réponse, hein, Daniel.
Les gens qui font un peu de flûte.
Double.
Ah, Double.
Il s'appelle Double.
J'adore ce jeu.
Oh là 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 là, Double.
Tu sais, tu dois trouver le même, la même image sur un rond.
Ah oui, c'est vrai, Double, j'adore ce jeu aussi.
Trop bien.
T'as raison. Et qui chante?
Tanguy.
Oh là.
C'est pas Tanguy.
Tanguy. Ouais, Tanguy, Tanguy, Tanguy.
Ah, c'est Serge Gainsbourg.
Bah ouais.
Elle avait de l'amour.
Donc il y a eu Double.
Il y a Double et il y a Nelson.
Et il y a Nelson.
Il va y avoir
Blind Test. Ok, d'accord. J'ai pas compris.
Jérémy.
Jérémy.
Jian.
Blur.
Blur, oui. Tanguy.
Quoi? Bah, j'ai tenté tout le tour, quoi.
Ah.
Wouhou. Parce que Sang Tu. Il y a deux. Puis alors des sons, il y en a dans le livre aussi. Il y a une véritable BO dans le livre de Philippe Jian. Attention.
Morgan.
Ah oui.
Spin Doctors.
Joli. Quelle vitesse.
Mais ça va vite là, ce matin.
C'est juste un petit truc de batterie.
Nelson.
Ah, ils disent vraiment des paroles.
Non, non.
Je pensais qu'ils faisaient.
Ah, non.
Mais ils disent ça, hein. Qu'est-ce que c'était bien, ça.
J'ai le cœur gros, Nadine.
Eh, hey, je fais n'oubliez pas les paroles de Spin Doctor, tu viens, quoi. Après,
mais sur cette chanson.
Ils en ont fait qu'une en même temps.
Non, mais uniquement là-dessus, t'as reconnu
Spin Doctor.
Bah ouais, mais le nom.
Moi, j'aurais dit régiment numéro 3 de l'armée. Fabrice.
Tanguy.
Oui, Tanguy.
Just the two of
us. Marvin.
C'est un petit caprice.
C'est pas Marvin Gaye.
Florence.
Non, c'est pas moi.
Mais par contre, c'est qui?
Just the two.
Grover Washington Jr. Il y a plein de versions différentes.
Ah, c'est vrai, j'ai jamais su le nom.
Non.
Just the two.
Attention, qui chante?
Tanguy.
Oui.
Prince.
Oui.
Quel rapport? Est-ce que je peux en avoir?
Je sais pas du tout.
Ah ben Prince, à mon avis, ils sont bien deux dans sa tête, non?
Enfin, ils étaient.
Ils étaient.
Ils sont tous morts en même temps, d'ailleurs.
Son vrai nom, c'est Nelson.
Ah oui, c'est vrai.
Ah mais oui.
Oui.
Comme Nelson Montfort.
Et il a pris Mandela.
Oui, mais en mieux.
D'ailleurs, il avait changé.
C'est
même il avait encore changé de pseudo après. Il avait pris The Artist.
Ouais, c'est vrai.
Voilà. Love Symbol.
Love Symbol.
Et Jacques.
3 points pour Tanguy, 1 pour Daniel, 1 pour Morgan, 1 pour Jérémy. C'est... Okay,
j'en ai pas moi.
Si.
Il y a deux Tanguy.
Moi non, j'en ai pas non plus.
Je crois que j'ai.
Non,
j'ai,
toi t'en as pas. Mais si,
j'ai fait un bluff moi.
Si, il a.
Non,
oui, il a bluffé.
Tu... Ah bon?
J'ai bluffé sur Blur.
Bah c'était la bonne réponse.
Non,
je crois que c'est Tanguy qui a dit Blur.
Ah, c'est vrai. Ok,
d'accord.
Ok, c'est honnête, c'est honnête, c'est honnête. D'autant que.
C'est trop honnête.
Tout se joue à 5 points. Qui interprète?
Daniel.
Francis Cabrel.
Cabrel, ouais, j'allais dire Cabrel.
Non, c'est américain.
Le Ding Ding Ding.
Renault.
Non.
Non, non, non. Les cœurs de vieux.
Stéphane Echer.
Stéphane Echer.
Joli.
Oh, c'est un vol.
Et pourquoi? Pourquoi ce titre?
Parce que
c'est la valse. C'est la valse Gian Gian Valse.
Oh, chic.
La classe.
Attends, est-ce que j'ai gagné là-dessus?
Ouais.
Ouais, j'ai l'impression.
C'est une belle victoire.
Encore un hold-up de la cadeau.
Je crois que c'est la première fois que je fais un contre-biais comme ça. C'est-à-dire tout un blind test sur un... Hop, hey, hop.
Crac.
Ah, donc quand la on marque total. Sur la dernière réponse,
cette
c'est...
Oui, ah, ouais, c'est le super banco.
C'est le super banco.
Ça fait 3 semaines que t'es là.
Victoire de Leïla Gadourou-Dani, Monsieur Philippe Jian est notre invité.
Ça s'appelle la bande originale avec Nagui.
Bienvenue Philippe pour cette première fois avec nous, on est ravis de vous accueillir.
Merci pour cet accueil.
Parce que s'il y a un titre d'émission, je ne parle pas de la qualité, je parle juste du nom de l'émission qui va bien avec votre œuvre en général, c'est bande originale. Parce qu'il y a une véritable bande originale dans votre livre aussi, beaucoup de musiques sont présentes, qui sont vos goûts personnels, parce que c'est le cas aussi des auteurs et des livres que vous citez.
Il y a un truc très drôle, il y a un type qui écrit dans un blog depuis quelques années, là. Alors c'est pas lui qui tient le blog, mais il a des commentaires comme ça, puis ça fait 3-4 ans qu'il me tombe dessus et qu'il me massacre à chaque fois. Et ça devient presque sympathique, mais je dis, ah, il est marrant.
C'est attachant.
Sauf que le dernier bouquin, il dit, bon, son bouquin il est naze, mais alors putain, la bande son dedans, elle, c'est une tuerie.
C'est quand même fou.
Et
de...
dit, bah voilà.
Le mec, il lit jusqu'au bout, mais de suivre tout.
Oui, c'est ouais, ça.
Bah il voilà, le lit en entier.
Bah, il a pas de vie en même temps.
C'est ce qu'on appelle un vrai fan, hein, en fait.
Bah, faut qu'il aille au fond de la chose pour me faire mal. Quoi.
Ouais. Quand je sens comme quoi, c'est bien fait.
C'est ce que j'ai dit hier soir.
Et il y a peut-être d'ailleurs un personnage comme ça dans votre livre, Erotoman, c'est une forme de danger aussi.
Michel,
elle est quand même dangereuse parce qu'elle est amoureuse, croyant, pensant vis-à-vis d'un auteur justement, puisque l'un des héros, on va dire qu'il y en a quatre quand même personnages principaux dans le livre, mais surtout un qui est un auteur,
Luc
face à Marc.
Ouais.
D'ailleurs tiens,
ouais.
Luc, des Marc, Edith, hein. Michel, est-ce que les prénoms sont importants pour un auteur?
Le choix des
prénoms. C'est à la fois super important parce que c'est comme des coquilles vides, un prénom. Soit vous arrivez à mettre quelque chose dedans, mais si le truc, il y a déjà des machins qui sont... Par exemple, j'arrive pas à avoir un personnage féminin qui s'appelle Morissette, par exemple. Ah. Ça me bloque.
C'est trop daté.
Non, je sais même pas ce que c'est. Je peux pas.
Je sais pas
quoi mettre dedans.
Et vous voudriez?
Je ne sais pas comment mettre dans Morissette.
Non, parce qu'à l'oreille, c'est pas terrible, Morissette.
Tout va bien, alors. Philippe, si le roman s'appelle Je ne sais pas comment mettre dans Morissette, ça peut être un style aussi.
On ne sait jamais. Peut-être.
Ça ouvre des perspectives.
Non, mais les prénoms, c'est un truc. C'est pour ça qu'il n'y en a pas beaucoup et qu'on me dit, mais c'est parce qu'il y a un truc caché là-dedans. Il y a un prénom, le Henri ou le Dan qui suivent. Non. Parce que j'en ai pas beaucoup et que je me resserre, quoi, en fait.
Mais Luc, Marc, on est dans...
Ça ne me dit rien, mais Luc, Marc, je peux mettre plein de trucs dedans.
Dans l'Évangile, ouais. On est dans...
Ah oui, c'est ça.
Dans Pierre,
Mathieu. Il y a Paul aussi.
Il y a Judas.
Il n'y a pas Jean. Georges. Il n'y a pas de Jean là-dedans.
L'Évangile de Judas.
Ce double Nelson, est-ce que c'est une mise en abîme d'une vie d'auteur pour vous? Est-ce que c'est une folle histoire, enfin deux folles histoires d'amour? Parce que de chaque côté de la rue, il se passe des choses. Ou est-ce que c'est une manière aussi de montrer que ce sont les femmes qui décide de tout et qui dirige les histoires des deux autres?
Elle décide pas de tout parce qu'il y a cette fameuse prise. Elles peuvent être prises par un double Nelson, donc elles n'ont pas tout le temps. Mais moi, j'adore les femmes, donc c'est. Mais pas quand je dis ça, c'est pas un homme qui dit j'aime les femmes. J'aime les femmes d'une manière mentale, intellectuelle. J'aime bien leur résistance. J'aime bien la manière dont elles se débrouillent. J'aime bien la manière dont elle nous emmerde aussi, parce que sinon la vie serait triste.
Mais c'est réciproque, ça tombe bien. Ouais.
Pardon ?
C'est tellement réciproque que
c'est
ça tombe bien.
Et ben voilà, c'est comme ça.
Ça, c'est de la parité. Ouais, ça.
Voilà.
Et le point de départ de ce... Alors, ce roman, il faut faire attention aussi à ce que l'on peut dire et ne pas dire, parce que ça reste aussi un thriller, il y a un suspense quand même. Bah si, quand même.
On va mourir. Hein,
non. On va pas gâcher non plus. Il y a cette rencontre un peu physique, musclée entre une femme et un homme qui est... Cette femme fait partie de brigade,
de force spéciale,
et elle se trompe en fait de cible, d'où cette rencontre qui débouche sur une histoire d'amour mouvementée, musclée, et puis un post-it rose un jour qui est déposé par cet homme en disant bah écoute, ça on va s'arrêter là parce que ça va pas être possible, je suis auteur, je suis romancier, ça me bloque dans mon travail, je ne peux pas vivre avec toi ou avec elle, et donc il finit par lui balancer toutes ses affaires de sport, de boxe et de muscu dans la rue sous une bâche qui disparaissent en une nuit. D'ailleurs, ça le fait chier parce qu'il se dit mais elle a même pas envoyé un texto, elle a rien.
Ça me fait rire moi-même, c'est ça qui est bien quand je l'entends ça.
Mais c'est le point de départ et on ne sait pas trop d'ailleurs si l'équilibre de cet auteur, de ce romancier est dans le conflit avec cet envoyé des forces spéciales ou au contraire dans la solitude du romancier face à son écran.
Il y a tellement de questions dans ce que vous me dites là, mais ce qui était amusant pour moi, c'était aussi cette idée de commencer un roman par la, pas par la fin, mais que la rencontre avec qu'on connaît, qu'on a lu 50 millions de fois, ou la rencontre, et puis on s'aime, et puis c'est super, et puis peut-être après ça va se... Moi, je me suis dit, j'ai envie de passer par tout ça, parce que ce qui était intéressant, c'était de les remettre ensemble avec tout le passé qu'ils avaient. Mmh. Donc on arrêtait le truc, mon amour, je le regarde avec des grands yeux et tout ça. Non, ils se connaissent bien, ils font attention et ils savent qu'ils sont encore attachés. Mais comment ils vont...
Attirés même plus qu'attachés.
Oui, hein, oui. Ouais. Yeah, oui, ok. Attirés. Je pense qu'ils sont assez liés parce que pour moi...
Bah, quand on fait l'amour sans s'embrasser, on est plus dans l'attirance.
Quelle liberté.
C'est les règles qui fixent pour...
Ah, faut s'embrasser.
Je pouvais difficilement mettre deux personnages qui avaient eu une vie amoureuse intense au départ et qui acceptaient de renouer éventuellement une espèce de cohabitation, bah, je pouvais difficilement ne pas passer par une espèce d'attirance qui allait forcément, même sexuelle et physique, qui allait se remettre en place. Sauf que, comme ils ne sont pas idiots, ils savaient que ça allait être dangereux. Donc ils disent « Ok, on s'embrasse, mais sans la langue ».
C'est ça.
Et moi, je meurs de rire quand j'écris ça. C'est une comédie, et j'arrête pas de le dire. Tous les écrivains ne sont pas des gens investis Auster. Par le Seigneur. On écrit des comédies, parce que nos vies sont tragi-comiques.
Mais vous aviez envie quand même qu'il y ait une forme de suspense, de thriller, d'enquête, d'investigation.
Oui. Ouais. Enfin, d'enquête, je fais jamais d'enquête, mais j'ai pas le temps. Ça
non, mais c'est ce que elle fait, en tout cas.
Oui. Mais par exemple, sur les forces spéciales, je suis qu'il y a quelqu'un qui allait venir pour nous en parler.
Exactement.
Je vais me mettre sous le bureau en disant « mais j'y connais rien dans les forces spéciales ». Simplement, ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment, je lis un article et tout le monde sait qu'évidemment que la vie dans les commandos, ça ne va pas être simple. Et il y a des femmes qui, d'un seul coup, ont accès si elles passent les tests. Et il paraît que cette femme en question, qui a été une des premières à être admise dans les forces spéciales, les types avec qui elle avait fait ses tests de résistance et tout ça avaient la mâchoire qui se décrochait en disant « Incroyable, évidemment qu'il y a un bras de fer, on va gagner le bras de fer. » Mais ils disaient que le mental de cette femme était supérieur au leur. Quoi. Et ça, c'est génial de montrer qu'à un moment, il n'y a pas que la force physique qui compte.
Double Nelson, le nouveau Philippe Jean, c'est bien, ça devient un nom commun, le nouveau Philippe Jean, le Philippe Jean annuel, parce qu'il y a un rythme et une qualité de travail qui est assez, qui est même très impressionnante. Nous sommes impressionnés, nous sommes ravis, c'est pas le cas de tout le monde, voici Morgane Cadignan. Et Morgane ne vous aime pas, Philippe.
Elle est géniale. Moi, j'aime bien les gens qui ne m'aiment pas parce que j'essaie de les reconquérir.
C'est elle qui tient le blog.
Philippe Jean, je vous aime pas, mais quand même un peu parce que grâce à vous, j'ai appris que Double Nelson n'était pas seulement un titre de roman, mais également une prise de catch qui consiste à faire abandonner son adversaire. C'est fascinant. Le nombre de fois où je me suis fait double Nelsonner la gueule sans savoir que ça avait un nom, quoi. Tu sais, quand ton mec fait un petit peu exprès de mal plier le linge pour que tu finisses par dire, non, bah, laisse, je vais le faire, du coup, bam! Double Nelson, abandon par charge mentale. Bien joué. En 68, Philippe, vous partez aux États-Unis sur les traces du héros de l'attrape-cœur de Salinger. Quelqu'un aurait pu vous prévenir avant le départ qu'il n'existait pas. Moi aussi, j'ai couru après des personnages de fiction. Après, je peux être très très insistante, donc Dorian Gray a quand même pris vie pour me demander d'arrêter de le suivre dans les rues. Voilà, bon, soit tu fais canipocane, soit tu fais des blagues, hein, finalement. Vous racontez également avoir loupé un avion pour la Colombie à cause d'une panne de réveil, et l'avion s'est écrasé. Vous imaginez rater un crash parce que t'es une feignasse, quoi. On dit que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Et bah pas là. Voilà. Parfois les dictons nous mentent. Je suis désolée. C'est triste, mais c'est comme ça. Parfois il y a des pierres qui roulent et qui amassent quand même un peu de mousse. On ne peut rien y faire. Mais je m'en remets pas de ce coup du destin échappé à un crash à cause d'une panne de réveil. Moi je suis là comme une conne à me lever le matin, à avoir peur d'être en retard. Alors que si ça se trouve c'est le destin qui veut pas que je vienne ici. C'est l'univers qui tente de sauver ma carrière. Ouais. J'ai quand même quelques chroniques qui se rapprochent du crash aérien. Franchement, en un an et demi, voilà, j'ai fait 2-3 vannes pendant lesquelles je voyais Nagui et Leïla sortir le masque à oxygène pour aller glisser sur le toboggan du malaise. En 82, vous publiez votre premier roman, Bleu comme l'enfer. Bon, c'est un petit peu dur pour cette couleur, regardez autour de vous, il est pas bleu l'enfer, il est clairement rouge et noir. Le bleu, c'est plutôt cool quand c'est partout ailleurs que dans les cheveux de Léa Seydoux. Moi, j'aime bien. Bleu comme l'enfer, c'est le premier livre que j'ai lu de vous. C'est un récit qui mélange fuite, violence, drogue et sexe. À la fois un bon week-end et la biographie de Daniel Morin. Et là, je continue votre biographie à vous. Et coup de théâtre, on croit connaître les gens. En 89, vous devenez le parolier de Stéphane Escher. Et c'est à vous, Philippe, qu'on doit déjeuner en paix. Une chanson à cause de laquelle on n'a jamais pu redéjeuner en paix, puisqu'à chaque fois qu'on voulait déjeuner en paix, quelqu'un se mettait à chanter déjeuner en paix, puis on passait la journée avec déjeuner en paix dans la tête, jusqu'au dîner, qui est un repas sympa, jusqu'à ce que Benabar vienne nous le foutre en l'air aussi, quoi. Donc, Philippe, au final, je vous aime bien, parce que vous êtes un romancier avec une vie de héros de roman, et maintenant, à chaque fois que je me lèverai pas le matin et qu'on menacera de me virer, je répondrai, bah ouais, j'ai loupé mon réveil, mais Philippe Jean est vivant, donc laissez-moi dormir en paix.
Merci, Morgane. Bravo.
qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix.
Salut au passage l'ami Antoine Decaune, qui est à l'origine de cette amitié de combien d'années maintenant entre Stéphane Escher et vous? Ça fait 30 ans?
Même peut-être plus que ça, peut-être 35 je dirais, allez, soyons larges.
Amitié qui vous pousse même à déménager, parce que c'est lui qui vous a convaincu d'aller vivre à Lausanne.
Ouais, c'est Antoine Decaune qui me disait, mais parce qu'à un moment je lui disais, mais je comprends pas pourquoi les écrivains sont tous à Paris dans des restaurants que tout le monde connaît, c'est pas très drôle. Alors que moi, dès que j'ai commencé à gagner de l'argent un petit peu avec mes livres, bah, j'ai voulu voir le monde que je connaissais pas.
C'est la liberté d'un auteur, en plus, de pouvoir travailler d'où il veut.
Bah, et ça, c'est incroyable. Ouais. J'ose pas en parler parce que je vais passer pour un privilégié.
Je
suis un privilégié.
C'est bien.
J'ai gagné ce privilège.
C'est ça, exactement. En plus, vous n'enlevez rien à personne, donc je vois pas où est le problème. Et vivre en Suisse, c'était comment?
En Suisse?
Ouais.
C'était très cadré. non, mais je plaisante parce que vivre en Suisse, tous les endroits où j'ai habité, j'ai jamais eu non plus des rapports particuliers avec les Suisses, avec les Américains, avec les Italiens et tout ça. Je rencontre toujours des gens qui sont un peu dans ma sphère d'activité. Et c'est les Suisses un peu particuliers, les Suisses qui écrivent des bouquins sympas, il n'y en a pas des kilos. Donc, mais je connais pas le Suisse qui est derrière son rideau.
Pardon, je reformule la question parce que le climat. Je trouve que le soleil est très présent dans.
Je rigole d'avance, mais bon. Je rigole parce que vous savez que Nick a pris Lyon des Un Rock et qui avait dit avec Jean au moins ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas besoin de regarder la météo. Il nous la donne à chaque page.
Oui, mais
rire, mais en même temps, je pourrais vous expliquer pourquoi.
Je ne sais pas si c'est un compliment sous sa plume, mais en tout cas, les rayons de soleil, les soleils couchants, on a encore aussi les images de 37.2, l'importance du soleil, la nature, la vie. Justement, je me dis que. Et l'océan, qui est présent aussi dans votre roman, ça fait beaucoup de choses. La pluie, oui, elle peut être présente en Suisse, mais soleil et océan, c'est pas vraiment le cadre le plus suisse. Et tant qu'à être libre d'aller où on veut sur cette planète, pourquoi ne pas aller plus vers le soleil et l'océan que vous semblez aimer?
Ouais, parce que d'un seul coup, on me met entre les pattes un Suisse. Qu'est-ce que je voulais que je fasse? Fallait bien que je m'adapte. Donc, je me suis adapté. Et par exemple, les reflets de la journée qui passent sur le lac, je peux vous assurer que c'est super.
Ouais, ça va être joli aussi, ouais. Ok.
Il fallait écrire pour Franck et Vincent, comme ça vous seriez parti.
La musique est très présente dans votre roman et souvent d'ailleurs, elle est importante dans votre vie.
Comme quoi, même avec un AVC, on peut faire des bons trucs.
Parlez-nous de cette musique. Elle est importante.
Ça, c'est un truc particulier. C'est un espèce de groupe russe, on n'est plus en Suisse là. C'est des Russes qui ont mis ça en place et qui ont fait un film qui est génial. Que chaque fois qu'il y a des gens nouveaux qui arrivent chez moi, je leur mets l'étau. Parce que c'est l'histoire d'un groupe qui se met en place et avec des standards qu'on connaît tous, mais qui sont réadaptés. Et c'est génial, des trucs de hip-hop, des trucs. Et puis je sais pas. Enfin, ça va pas m'accompagner jusqu'à ma mort, sauf si je meurs demain. Mais je veux dire, bon, c'est bien. Il y a d'autres trucs qui se passent. Mais j'aime beaucoup et particulièrement ce film et cette image de ce groupe qui se met en place et comment les gens vivent ensemble, comment ils font de la musique ensemble, comment ils arrivent à vivre ensemble. Enfin bon, bref.
La musique est présente dans des citations dans votre livre. Est-ce que vous travaillez en musique? Est-ce que pour vous, l'écriture est une musique?
Alors oui, pour la dernière remarque, oui, la vie et l'écriture et tout ça, c'est une musique pour moi, mais je n'écris pas en écoutant de la musique.
Parce que le rythme de vos phrases, la brièveté des phrases par moments sans verbe, c'est un tempo que vous vous donnez.
J'ai jamais remarqué que j'écrivais des phrases sans verbe. Tiens, il faudra que je fasse gaffe quand même. Parce que
si, j'en ai.
C'est bien quand. Non, mais peut-être.
Non, mais
peut-être.
Vous mêlez en tout cas les dialogues au corps du récit.
Il y a des moments où c'est
des punchlines.
Des
punchlines.
Ça, c'est intéressant parce que c'est aussi votre marque de fabrique. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous donnez à entendre dans le corps de la narration les personnages, ce qui peut créer un effet un peu déroutant au départ, mais qui fait qu'on entend toutes ces voix qui jaillissent ensemble. Et c'est un peu comme les différentes pistes d'une chanson.
Je n'irai pas jusque-là, mais c'est une manière de... Mon travail porte plus sur la langue. Mm-hmm. Pourquoi ? Parce que je trouve que toutes les histoires ont été plus ou moins écrites et que depuis Shakespeare, on ne renouvelle pas trop. Les scènes qu'on connaît, elles recommencent à chaque fois. Il y a simplement une manière de les regarder différemment. Mmh. Oui. Et ça veut dire faire un pas de côté pour regarder la même chose que tout le monde, mais d'une manière différente.
Et c'est pour ça que vous
mêlez... changement d'angle et de cadre, c'est la langue qui le donne, et rien d'autre.
Et ça passe aussi par le fait de mêler comme ça les dialogues dans la totalité.
Oui, parce que je trouve que se servir de la typographie, comme l'italique, les guillemets, les machins, les points d'anna, c'est une faiblesse de l'écrivain. Mmh. Il n'a pas trouvé le moyen de... Quand on met, par exemple, « Où est-il ?», ils se sont obligés de mettre un point d'interrogation, alors qu'il y a déjà l'inversion verbe-sujet. Donc, alors que si vous enlevez le point d'interrogation et que vous mettez un point dans votre lecture mentale, c'est plus « où est-il ?» qui attend une réponse, c'est « où est-il ?» Mm-hmm. Et il y a des questions qui n'amènent pas de réponse. Ouais. Le point d'interrogation, à ce moment-là, m'emmerde. Donc je me suis dit « je ne veux plus de point d'interrogation. Est-ce que j'ai besoin de mettre un point d'exclamation ?» Pour faire, vous avez vu la phrase ? Non, c'est pas la peine. Est-ce que j'ai besoin d'écrire comme Vygotsky, que j'adore et que j'adorais à l'époque parce que j'écrivais comme lui en faisant des mots avec des grandes lettres bâtons ? Non, c'est une faiblesse. Mm-hmm. Donc j'essaie d'éliminer tout ce qui m'emmerde.
Ouais, ça permet aussi de jouer au doute et à la confusion quand on ne sait plus d'ailleurs qui a dit quelle phrase. On le comprend très rapidement derrière, mais ça laisse planer cette forme de doute aussi.
J'aime bien, moi, que ce soit un peu, qu'il y ait un petit effort à faire. On n'a pas l'impression que dans le genre de livre que j'écris, je demande au lecteur d'être très attentif. C'est pas le genre de roman, mais oui, moi je vous demande d'être très attentif. Ouais, ouais.
Et de pouvoir aussi se dire qu'il est arrivé quelque chose, ou en tout cas parler d'une blessure et qu'on ne le comprenne qu'après aussi. Mmh. C'est comme une forme de... Ouais.
Mais vous rencontrez quelqu'un qui vous paraît sympathique, d'un seul coup vous n'allez pas dire « mais je voudrais bien savoir si vous avez été opéré de l'appendicite, si vous êtes malade, si vous êtes amoureux, si... » On va découvrir ça tout doucement. Et c'est pour ça que ce qui est intéressant quand on met des personnages en place, c'est que la première rencontre, souvent on se trompe. Des gens vous paraissent au premier abord antipathiques et vous allez vous rendre compte qu'en parlant un peu avec eux, comme avec ma voisine, là,
Morgane,
qui m'a paru tout de suite très antipathique, parce qu'elle a essayé de me démolir, mais d'un seul coup, je sens qu'elle me sourit gentiment. Donc ça va bien, ça change.
On rachète.
On va les payer pour
j'espère
ça.
Bien.
Non, c'est parce qu'elle a faim, là.
Ah bon, il y a faim. Il faut encore que je m'attende au pire.
Et c'est le cas de vos personnages aussi, c'est-à-dire qu'ils évoluent, qu'on apprend à les connaître, mais aussi, c'est une manière pour eux, enfin, c'est le sentiment que l'on a dans la situation dans laquelle ils se trouvent, de se découvrir eux-mêmes dans des situations de plus en plus dingues.
Mais, oui, mais moi aussi. Je le découvre aussi, parce que moi, quand j'écris, je sais pas de quoi ça va parler. C'est la première phrase qui démarre. Je sais pas qui est qui fait quoi. Est-ce que c'est un homme qui parle, une femme? Et j'avance tout doucement, parce que je suis comme vous, le lecteur. Je découvre en même temps. Sauf que je suis obligé de les écrire, moi. Mais sinon, je fais la même attitude. J'essaye de comprendre ces gens-là j'aime bien qu'on me mette pas un espèce de bloc psychologique pour que je comprenne d'entrée ce qui se passe dans la tête de quelqu'un. Mmh. Et parce que c'est complètement absurde.
Ce sont les personnages qui vous embarquent alors, c'est eux qui vous dirigent.
Oui, mais c'est la langue surtout, hein. C'est pas vraiment le personnage. C'est la première langue, la première phrase qui me donne à la fois le rythme, la coloration, la mélodie, qui me donne plein de choses, plein de choses qui vont me servir après. Donc je suis très attentif à ce que j'écris, et je regarde comment une phrase éventuellement en amène une autre ou pas. Par exemple, on peut regarder « Le ciel est bleu ». Si je vous écris « Le ciel est bleu », vous allez pas dire « mais il est génial, ce mec, vous avez vu ce qu'il a écrit ?»
Avec un point d'interrogation.
C'est super. Non. C'est pas terrible. Sauf que si vous avez travaillé la phrase qui précède, vous pouvez dire le ciel est bleu parce que vous allez en mettre une autre après qui va peut-être en amener une autre. Donc d'un seul coup, cette espèce d'insert au milieu peut devenir hyper intéressant et peut être très poétique en même temps.
Et au-delà du rythme des phrases, est-ce que le choix des mots aussi ont une musique, une sonorité ? Est-ce que vous avez un gueuloir ? Est-ce que vous lisez à haute voix votre texte ?
J'ai pas de gueuloir, mais le sens du mot est pas ce que je recherche a priori. C'est-à-dire que si à un moment dans une phrase, j'ai deux mots qui se battent un peu pour pouvoir prendre la place parce qu'ils veulent à peu près dire la même chose, je prends pas celui qui est le plus précis ou le plus intelligent ou celui qui va me faire passer pour un mec intéressant, mais celui qui à l'oreille me plaît le mieux.
Ouais. Morgane ?
Pardon, qu'est-ce que c'est un gueuloir ?
Un gueuloir, c'était Flaubert qui lisait à haute voix ses textes.
C'est ce que vous faisiez tout à l'heure, là.
D'accord.
Un vrai gueuloir.
Il testait ses textes comme s'il les proclamait, il fallait qu'il jaillisse de sa bouche pour qu'il entende aussi cette mélodie et voir s'il était dans son beau tempo.
D'accord,
en fait.
Ok.
Mais est-ce que je peux dire que Flaubert, il déconnait complètement en pensant qu'on avait besoin d'un gueuloir ? Je peux le lire ou pas?
Non, mais, chaque auteur.
Exactement.
Chaque auteur a son truc.
Tout à fait. Non, c'est vrai. Mais moi, je me sens pas.
On peut écrire debout, on peut écrire sur un ordinateur, on peut écrire sur un. D'ailleurs, et vous, quel est votre truc?
Non, mais je vais juste répondre sur ce truc-là. Imaginez que, a priori, je parle très mal. Est-ce que je suis capable d'être à la hauteur d'une belle phrase simplement dans l'intonation que j'emploie? Il y a des gens, par exemple, quand ils lisent mes textes, qui les jouent. Mmh. Et ça, je suis pas content du tout. Mmh. Il y en a d'autres qui sont complètement en retrait. Je suis pas content du tout. Donc c'est compliqué. C'est pour ça que le fait de me dire ça va m'avancer à quelque chose d'avoir un gueuloir, non, parce que la voix, c'est pas la même chose que ce qui est écrit.
C'est étonnant pour un parolier.
Je suis pas un parolier, moi. Je suis rien du tout. Je suis copain avec un gars qui chante, mais je suis pas un parolier.
Alors c'est étonnant pour un gars qui est copain avec un chanteur et qui lui écrit des textes.
Mais ils sont sévères. Ils sont quand même entre les deux. Non, oui.
C'est que les meufs. Hein, nous, on est.
C'est la fin.
Et encore.
Non. C'est un moment. Vous dites, c'est un peu compliqué parce que la personne qui va prendre vos paroles et qui va les mettre sur scène, si vous ne faites pas le bon choix, ça va être une catastrophe. Parce que le plus beau texte du monde, s'il est mal chanté, si la musique n'est pas bien, c'est une catastrophe. Mmh. Alors qu'un texte qui n'est pas terrible, comme Déjeuner en paix, c'est pas terrible, mais il y a un type derrière qui sait l'interpréter, qui a mis une mélodie incroyable dessus.
Alors tous les textes de chansons ne supporteraient pas une simple lecture sans interprétation. C'est quand même pas le cas ni de Déjeuner en paix, ni de...
C'est ce que vous venez d'expliquer, en fait. Ça peut être une phrase banale, mais tout dépend de ce qui précède et de ce qui suit.
On en revient à le ciel est bleu. Mm-hmm. C'est un truc tout bête et lui montrer que même là, il y a une beauté quelque part.
Sauf que sur cette chanson, il y a beaucoup de débats et d'interrogations sur le sens à y donner. Est-ce qu'à partir du moment où un texte a été écrit, le sens appartient à celui qui l'écoute? Et non plus à celui qui l'a écrit.
Il appartient à qui veut s'en approprier. Mais par exemple, ça a été un moment, il me disait, c'est l'hymne des gays. Moi, j'étais très content. Les gays, j'ai pas d'amis comme toi. Oui, bah, c'est sympa. S'ils veulent le prendre et que ça les amuse, pourquoi pas? Alors mais moi, j'ai pas écrit ça dans ce sens-là. C'était vraiment dans une amitié qui naissait avec un autre homme. C'était, j'ai pas d'amis comme toi. Et c'est ce que j'avais envie de lui dire.
Alors, moi, ce que j'entendais, c'était une déclaration d'amour presque à sa femme, en disant « t'es aussi mon meilleur ami », ce qui est encore une...
Mais ouais, vous avez pas tort, c'est aussi une déclaration d'amour pour une personne, pas forcément une femme, ça peut être n'importe quoi. Oui, c'est des déclarations d'amour. Quand tu t'approches de moi, le silence, je baisse les yeux. Mmh. J'aime bien cette image, plutôt de dire, putain, t'as vu, elle passe près de moi, elle est géniale, elle a des gros seins, elle a des grosses fesses. Non, c'est simplement, je baisse les yeux devant toi, devant ta beauté, devant ta manière de te déplacer devant moi. Merci, je leur dis.
Tendez bien l'oreille, voici Paul Mirabel.
Salut les amigos.
Salut.
Bon, amigos. Alors j'avais envie de vous surprendre avec une nouvelle phrase d'intro. Je pense que c'est réussi.
Ouais.
Est-ce que ça va? Tout le monde va bien?
Oui. Tellement bien, tu peux pas savoir.
Bah, écoutez, moi aussi ça va. Ça va comme un 16 novembre. C'est-à-dire que j'ai fréquemment envie de me jeter sous un bus, mais je me dis que dans un mois c'est Noël, donc ça compense un peu. J'ai quand même eu une bonne nouvelle ces derniers jours, c'est qu'il y a Leïla qui est venue voir mon spectacle.
Oui.
Déjà ça m'a touché parce que ça veut dire qu'il y a au moins une personne autour de cette table qui a compris que je n'étais pas que le stagiaire de cette émission. Et ça m'a fait très bizarre de la croiser sobre, je vous avoue.
T'as pas bu?
Je me permets de vous donner son ressenti après le spectacle, hein, je vous le cite tel quel. Extraordinaire, je n'ai pas pris une telle claque depuis Florence Foresti, tu es l'avenir de ce pays, je ne comprends pas pourquoi tu n'es pas le père de mes enfants, etc.
Elle était bourrée, elle.
Voilà. Beaucoup de questions existentielles, certes, un samedi soir plutôt classique en somme, mais ne vous inquiétez pas, malgré ces compliments, je garde les pieds sur terre. Vous savez, comme on dit dans le spectacle vivant, tout va très vite, l'important surtout c'est de prendre les trois points. Il y a quelqu'un d'autre qui a gardé les pieds sur terre ces derniers jours, d'ailleurs, c'est Thomas Pesquet qui a fait son grand retour sur notre planète.
Tu mérites. Voilà,
ouais. Et là, en voyant cette transition, je sens que Morgane se dit également, mais c'est vrai, pourquoi c'est pas le père de mes enfants?
C'est vrai.
Moi, je suis tombé. Je suis tombé sur une vidéo intitulée Les premiers mots de Thomas Pesquet après son retour sur Terre, et ses premiers mots c'était ça va très bien. Je vous avoue que j'étais un peu déçu parce que je m'attendais à quelque chose d'un peu plus surprenant. Après 6 mois dans l'espace, son premier mot sur Terre ça aurait pu être pamplemousse ou strapontin, mais quelque chose d'un peu plus inopiné. Thomas Pesquet d'ailleurs, que l'on remercie d'avoir ramené le ballon du penalty de Kylian Mbappé contre la Suisse qui a terminé selon une étude très sérieuse sur les anneaux de Saturne. Donc, je récapitule pour celles et ceux qui n'ont pas suivi son périple et qui vivraient dans l'espace. Quoique même, si tu vis dans l'espace, t'es censé être au courant qu'il est passé te dire bonjour. Oui, il revient de 6 mois dans la Station Spatiale Internationale. Ils étaient 7 astronautes dedans. Il y avait 3 Américains, 2 Russes et 1 Japonais. Alors, je sais qu'on dirait le début d'une blague un peu raciste, mais pas du tout. Et donc, 1 Français, et ils communiquaient entre eux en anglais. Moi, je trouve que ça aurait été plus marrant de mettre 7 astronautes, mais avec le niveau d'anglais de Laurent Paganelli. Ça aurait mis une petite ambiance bloquée dans l'espace.
Journaliste avec... sportif de Canal.
Voilà, bloqué dans l'espace avec uniquement des gens qui ne parlent pas ta langue, c'est un peu le dernier niveau de Erasmus. On peut être très fiers d'avoir Thomas Pesquet, d'ailleurs, je pense qu'on peut être fiers de lui, parce qu'il représente fièrement notre pays. Il est quand même parti 6 mois dans l'espace au nom de la France. On m'a posé la question, moi, une fois, on m'a dit jusqu'où t'es prêt à aller pour ton pays. Et j'ai réfléchi, honnêtement, Strasbourg-Saint-Denis. Après, ça fait beaucoup trop loin. Il a eu une demande un peu particulière, d'ailleurs, dans l'espace, on en avait déjà parlé dans l'émission. Il a demandé à pouvoir visionner le film Boîte Noire de là-bas. Alors, je juge pas, mais parmi tous les films qui existent, t'es peut-être pas le plus léger pour t'aider à t'endormir à 400 km en orbite autour de la Terre. Surtout que dans les dernières sorties cinéma, il y avait aussi Les Aventures du Petit Nicolas, ce qui est peut-être plus simple à gérer en termes de tension artérielle. On lui a demandé aussi quel était son premier soin en rentrant sur Terre, et il a dit qu'il avait envie de prendre une douche, d'un peu de repos et d'un café. Alors, moi, je trouve que c'est gentil comme demande pour quelqu'un qui revient 6 mois dans l'espace, parce que pour moi, ça s'appelle un dimanche matin. Si j'étais lui, j'aurais clairement abusé, je pense. J'aurais demandé un menu McChicken, mon poids en bitcoin et des fraises sans pépins. Et qu'on ne me dise pas que ça n'existe pas. Mais c'est une preuve qui garde les pieds sur terre au sens propre comme au sens figuré. Parce que ce qu'il a le plus marqué dans son voyage, c'est, je cite, « Ça change un peu la vie. Maintenant, les gens me reconnaissent quand je vais faire mes courses chez Leclerc. » Donc, 2 informations à retenir, c'est que si tu veux croiser Thomas Pesquet, c'est soit en allant te promener sur Neptune, soit au rayon surgelé du Leclerc de Rony 2. Bon, je vous laisse, parce qu'il faut que j'aille prendre le métro à Strasbourg-Saint-Denis, mais sachez que si je le fais, ce sera pour la France.
Ouais, merci. Vous êtes bien dans la bande originale, voici M et ses grandes oreilles.
Ah bon?
On l'insulte carrément.
Avec mes grandes oreilles, au moins j'entends les abeilles. Appareil, la vie fait des merveilles. De Maubeuge à Marseille, tous y sont les merveilles. Et dans la tour Eiffel, j'entends même le soleil avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles et mes petites orteils. Je peux pépégayer. Auriez-vous un conseil avec mes grandes oreilles?
C'était les grandes oreilles, M. Mathieu Chédid dans la bande originale de Philippe Djian sur Inter. Philippe Djian est notre invité. On va vous recevoir Christophe Gomard, ancien combattant des forces spéciales et ex-directeur du renseignement militaire, parce que c'est aussi un angle intéressant dans votre livre. Il y a plusieurs facettes. On peut le prendre comme une histoire d'amour, on peut le prendre comme une mise en abîme d'un écrivain, puisqu'il y a beaucoup de remarques faites sur la solitude de l'auteur, la difficulté d'écrire, le rapport avec son éditrice aussi. Il y a beaucoup de choses quand même qui expliquent
C'est un sport de combat aussi, c'est comme l'amour, quoi. On a l'impression que c'est ouais. une épreuve physique à chaque fois.
Ce qui est toujours,
c'est un bon rapport qualité-prix dans le livre. Hein.
Pas toujours.
Pardon ?
Il y a un bon rapport qualité-prix. Hein, dans
oui,
le livre.
C'est ça.
Vous avez beaucoup de choses pour pas beaucoup de pages, et, pas trop cher, mais ça va, je suis content quand même.
Ah ouais.
Une bonne affaire.
Mais vous tenez à le préciser que ça se veut drôle. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure.
Ouais, drôle. Je sais pas si c'est compliqué d'être drôle, hein. N'est-ce pas? C'est compliqué, ça vient pas facilement.
Sans ponctuation.
C'est pas drôle, c'est. J'essaye d'être léger. Céline disait que.
Ce qui est pas facile non plus, on va pas se mentir.
Lourds, hein. Pardon?
Ce qui est pas facile non plus, on va pas se mentir.
Non, je sais que c'est difficile.
Et Céline disait quoi?
Que ses contemporains étaient lourds.
Pardon?
Ses contemporains étaient lourds.
Mes contemporains sont lourds, c'est ça qu'il disait. Donc il vaudrait mieux dans. En tant que journaliste, qu'écrivain, que boulanger, de garagiste, essayer de trouver de la légèreté dans la vie. Mmh. Donc l'idée, c'est qu'on vit dans des choses tragiques, comiques.
Double Nelson, le nouveau roman de Philippe Djian, c'est publié chez Flammarion, je ne l'avais pas précisé. En 62, vous écoutez, vous découvrez peut-être.
Camino del llano viene, tanta soledad. Camino del llano viene. En la soledad, el cabrestero cantando.
Simone Diaz, à vous fermer les yeux, vous ça y est, vous êtes parti là.
Il est emporté. C'est beau l'allemand.
Chez vous, là, Philippe.
On pleure.
On dirait un chef d'orchestre qui est pris par la musique.
Qu'est-ce que ça vous fait ?
C'est une beauté absolue, ce truc. Ah non, mais.
Ça vous émeut encore ?
C'est depuis ce moment-là que je déteste Marie Laforêt.
Alors pourquoi ?
Elle est morte en plus, la pauvre, donc je la plains pas.
Parce qu'elle avait fait une version.
Elle a fait une version très Marie Laforêt, avec les falbalas, les machins et tout ça. Alors là, ce qui est génial, qui est enfin, très
pardon,
beau,
tout à l'heure, vous citiez des musiciens qui reprenaient à leur manière, dans leur univers, des musiques et ça vous émouvait. Laissez Marie Laforêt le faire.
Non, mais
j'ai bien l'impression qu'il la laisse.
En plus, elle est morte en Suisse, au bord du lac, donc
ça ne vous a pas plu, on l'a compris, mais visiblement, là, je décris quand même. Aux auditeurs, vous fermiez les yeux, même le sentiment que vous aviez les larmes aux yeux en écoutant Simone Diaz.
Je suis un super bon acteur. Hein. Non, mais c'est vrai que je fais ça, mais ça n'a pas empêché que sous mon t-shirt, les poils de mes bras se hérissaient quand même. Ah, ça ne se voyait pas, mais.
Florence avait raison, d'accord.
Non, mais il y a ce truc, je ne sais pas si vous avez, alors j'espère que tout le monde va se précipiter pour acheter ce Simone Diaz. Mais le moment où il passe de la voix, on ne sait plus si c'est une femme qui est en train de chanter
à
et qui
grave.
Reprend dans la même truc la voix de l'homme, quoi. Et ça, il ne pouvait pas faire ça, Marie Laforêt. c'est pour ça que c'est moins bien.
Le rire après.
On est en 62, Philippe. On va parler de l'année 62 et on va parler de, bah, finalement de cet ami, Jérôme Ecker. Je n'ai pas d'amis comme toi. Il a joué un rôle important. C'est un copain que vous avez rencontré sur les bancs, bancs de l'école en classe de 4e.
Ouais, c'est plus un copain, c'est
bah, il
est mort en plus. Donc,
ouais.
Non, c'est quelqu'un qui m'a ouvert. J'étais un petit couillon de Parisien qui connaissait rien à rien, qui était allé au lycée normalement. Et ce type arrive des montagnes en 4e, il n'avait jamais mis les pieds à l'école. Et comme moi, j'étais un petit peu aussi un petit couillon, j'étais tout seul. Et il me dit, je peux m'asseoir à côté de toi. Et je dis, ouais, ok. Et dans la demi-heure, mais pas loin, il me dit, tu sais, si tu veux qu'on devienne vraiment copain, il faut qu'on s'écrive. Je dis, ah bon ? Et je me dis, oui, allez, et je vais commencer par moi. Donc, il m'écrit un truc. Et je tombe un peu en admiration, parce que je dis, mais c'est super beau, c'est vachement bien écrit et tout, je suis incapable d'écrire ça comme ça, moi. Et il me dit, bah si, tu vas t'y mettre quand même. Et donc, il m'a forcé à faire attention à ce que j'écrivais, alors qu'avant, je n'avais pas de problème particulier avec ce que j'écrivais, il n'y avait aucun intérêt. Mais il m'a montré que, quelque part, c'était des moments dans une vie de petit lycéen que de s'asseoir et de dire, voilà, je vais essayer de mettre noir sur blanc ce que j'ai fait dans la journée. En général, il n'y avait rien. Et c'était parce qu'il n'y avait rien que ça devenait intéressant.
Cette amitié épistolaire, vous l'avez conservée ?
On est partis en Colombie ensemble. Oui.
Vous avez gardé les lettres ?
Ouais, ouais. Et c'était marrant parce qu'on avait un prof qui nous aimait beaucoup, un prof de français, et qui avait dit, toi Jérôme, tu seras écrivain, et toi Philippe, tu seras journaliste. Et c'est lui qui est devenu le journaliste, et c'est moi qui suis devenu écrivain. Comme quoi les profs de français, hein, bon.
Et comment
enfin
vous...
quand même, il a vu le nez pour les deux quand même. Ouais. Quand même.
Et comment... un mec génial. Il y a des profs comme
c'est
ça.
C'est ce prof qui vous a donné aussi l'envie, j'imagine.
Ce prof, avec le peu d'argent qu'il gagnait, se payait les trucs à Bayreuth pour aller écouter Wagner, et quand il revenait de ses écoutes qui duraient 3 ou 4 jours... Il se mettait au tableau pour nous faire un dessin de ce que c'était qu'un opéra ou que c'était qu'une musique. Et il se retournait, il pleurait, le gars. D'émotion, il pleurait. De beauté, de la beauté qu'il avait approchée, il en pleurait. Et moi, je me dis, ça existe dans le monde, ça a une beauté qui peut vous faire pleurer tellement elle est pure, tellement elle est intéressante et tout. Alors, c'est ce que je recherche depuis 40 ans dans mes bouquins. Je n'ai pas encore réussi à faire pleurer tout le monde. Mais c'est un petit peu... C'est ça, c'est une émotion que vous avez ressentie. Bah, déjà, ça vous rend un peu humble. Mais vous allez essayer d'être à peu près, de ne pas faire tâche. Donc c'est pour ça que dans mes livres, j'essaye de mettre un peu de poésie, j'essaye de travailler les phrases et tout ça.
On l'a dit, vous découvrez ensuite l'attrape-cœur de Salinger, beaucoup d'auteurs américains, Kerouac, Carver. Et puis vous faites une interview, vous avez une vingtaine d'années, je crois que vous interviewez la veuve de Céline, Lucette Destouches, pour le magazine littéraire. Comment se passe cette rencontre ? Elle est décédée il y a peu de temps.
Ouais. Bah, comment ça se passe ? Je devais être le 167e journaliste qui devait lui demander comment ça se passait. J'étais en admiration parce que Céline, moi j'ai rencontré... J'ai rencontré Céline à un moment où je ne savais pas tout ce qu'il y avait autour de lui. Parce qu'au lycée, on ne nous en parlait pas et que mon copain Jérôme me dit...
Là, vous parlez de l'antisémitisme.
Ouais. Je ne savais pas. Donc quand vous lisez Le Voyage au bout de la nuit, pas de problème. Ouais. Après, ça devient un peu plus compliqué, mais il n'empêche qu'il me fait découvrir un monde incroyable. Au lycée, pourtant, à la fin, on commence, quand on a pris la section lettres, à s'intéresser un peu à la littérature, mais sinon personne au lycée ne m'en parlait. Et je découvre un monde incroyable, et je me dis, voilà, la littérature, c'est quand même un sacré truc. Et c'est pour ça qu'après, Salinger, Kerouac, machin, parce que c'est des gens qui me font vivre, c'est des gens qui m'ont appris à vivre et à regarder le monde tel qu'il est ou tel que j'avais pas encore compris qu'il était.
Mais vous aviez quelle curiosité quand vous l'avez interviewé, Lucette Destouches ?
Quelle
curiosité ? Quelle était la question qui vous animait le plus au moment où vous l'avez rencontré ?
Sentir l'ambiance de ce lieu où c'était trimballé cette espèce de mec là, qui ressemblait à la fin, enfin, il le faisait un peu exprès, qui ressemblait à un clochard. Hein, ouais. C'était un truc assez incroyable, une espèce de capharnaüm dans une grande pièce avec une dame qui était là. Mais je crois que je ne sais même plus ce qu'elle m'a raconté. Je sais que j'y suis allé parce qu'il publiait Rigaudon et que Céline ne l'avait pas encore mis en place et que c'était sa femme, donc Lucien Almanzor et l'avocat de la famille qui avait travaillé depuis je ne sais pas combien de temps pour mettre Rigaudon en place. Donc ça m'intéressait que moyennement ça.
Il y a toujours la question de faut-il distinguer l'homme, enfin, ou l'être humain, la femme, de son œuvre, de savoir Céline antisémite change votre regard sur son écriture ou pas du tout ?
Je ne sais pas quoi répondre, c'est vraiment un truc très très compliqué ça. Je déteste le Céline des Bagatelles et de compagnie. Je trouve que c'est même un peu dommage qu'il se soit rabaissé à faire ça. Il n'avait pas besoin de faire ça. Mais en même temps, les gens sont tellement bizarres et particuliers. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il y a des gens il y a des bouquins qui ont été écrits où des types disaient, mais moi, Céline, je l'emmenais dans des espèces de réunions ariennes et il se mettait au fond de la salle et il disait, et la connerie arienne, tu sais ce que c'est ? Dans des trucs où il y avait que des types en uniforme. Et puis d'un autre côté, c'était un mec qui était mauvais, je veux dire, qui était. On ne sait pas très bien comment ça s'est passé avec ce type qui était dans l'hôpital où il travaillait. Il a trouvé un moment que c'était parce que le gars était juif, qu'il pouvait pas le blairer. Donc je peux pas dire j'évacue. Je connais pas ce truc-là. J'ai jamais relu Céline depuis, mais c'est resté un grand moment de l'écoute. Il inventait quelque chose, je veux dire, il disait à un moment, il n'y a que les Chinois qui ont eu cette capacité à travailler leur langue et à changer leur langue. nous, en France, on est incapable de faire ça. C'est pour ça que lui, il y a les petits points, les machins.
Non, mais vous n'avez jamais relu Céline depuis. Or, vous avez relu les Kerouac, les London et autres. Ah bah,
c'est
Faulkner.
Pas le même genre. Hein.
Oui, oui. Oui. Non, mais je veux dire par là, c'est ce oui. qui vous a quand même freiné. En 85, vous écoutiez Dylan. I want you. I want you.
Et 85, c'est un roman et un film, c'est 37-2 le matin, votre deuxième roman, et vous dites que ce qui vous intéressait à l'époque, c'était de raconter une histoire con, mais de l'écrire bien.
Merci, mais je suis tout à fait d'accord avec ça. Mais non, mais la banalité et la connerie, si vous savez vous en servir, ça peut devenir intéressant. Mm-hmm. C'est pas parce que vous allez choisir un sujet où tous les gens vont dire waouh, vous savez, le mec, il est hyper intelligent, hyper malin. Là. Non. Faire ça avec la banalité, faire ça avec la vie, faire ça avec. Moi, j'aime bien ça. Et c'est pour ça que j'essaie d'écrire d'une manière qui m'intéresse par rapport à l'époque qu'on vit aujourd'hui. Parce que je trouve que cet outil de la langue, on l'a perdu et les gens n'arrivent plus à se parler. Et quand on n'arrive plus à se parler, qu'est-ce qui se passe? Le poing se ferme et on se fout sur la gueule. Donc quelque part, c'est pas en demandant aux gens à lire du sous-Proust, parce qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui essaient d'écrire comme Proust, c'est pas en faisant ça qu'on fait avancer les choses. Moi, j'essaie de mettre une langue en place qui est pas une langue que vulgaire, que élégante, que machin. Il y a un truc à trouver entre les deux. Il y a une longueur des phrases, il y a une manière de découper la phrase, il y a une manière de trouver un autre rythme dans la phrase. Et c'est ça l'écart, le changer l'angle. Regarder une histoire et la raconter différemment.
La phrase que... Alors, je me suis totalement trompé. Non seulement il y a un verbe, mais il y en a plusieurs. Mais c'est une phrase qui, au moment de la lecture, m'avait troublé. La phrase est « Mais cette fois vraiment pleuvoir, un véritable déluge que médusé Luc regardait s'abattre sur les alentours. »
Vous voyez pourquoi je veux pas les dire mes textes, parce que quand je les lis pas bien, on enlève tout ce qui est...
D'accord. Ah, vous la liriez comment?
Ah, je veux pas la lire, parce que je suis incapable de lire, moi. Je sais que ma langue parlée rabaisse tout ou ramollit tout.
Je savais pas comment vous le dire.
Sinon, je serais l'auteur.
Est-ce que vous comprenez le trouble dans cette structure-là, mais cette fois vraiment pleuvoir un véritable déluge que... Virgule.
Enfin, c'est... Bah, ça vous plaît ou ça vous plaît pas?
Non,
répond à la question, monsieur.
Non, mais... Exactement. Non seulement je l'ai retenue, mais elle a cadencé le rythme de ma lecture. C'est-à-dire que d'un coup, elle a créé quelque chose où j'étais plus dans le même tempo. Ouais.
Mais moi, ça me fait ça quand je lis d'autres auteurs qui me font le même genre de.
Donc ça marche.
Et je voulais revenir à 37-2 parce que c'est un roman et ça a été aussi un film qui a aussi bouleversé votre vie parce que du jour au lendemain.
Jamais de la vie.
Bah en tout cas, moi je vais vous dire comment ça a bouleversé potentiellement votre vie, c'est que ça a eu un succès retentissant au cinéma, et vous êtes parti, vous l'avez dit, vous ne vouliez pas vivre ça, que c'était trop lourd à porter d'être désigné comme cet auteur rock, cet auteur d'une génération. Ça bouleverse ou pas, de partir?
Non, parce que j'ai compris qui avait été, à qui ça avait changé la vie. Alors comme j'expliquais que c'était pas la mienne, mais celle de Benex, oui.
Ouais.
Parce que c'est le film qui a eu un énorme succès.
Non, mais
sinon,
vous aussi,
le bouquin.
Vous aussi, votre notoriété, elle a été.
Et Béatrice Dalle.
Et votre notoriété aussi.
Alors moi, quand j'ai vu comment ça commençait à prendre forme, ça m'intéressait pas du tout. J'aime pas ce truc de rapport de oh, qu'est-ce que c'est bien ce que vous avez fait, tout ça. Donc j'ai voulu partir. Mm-hmm. Et j'étais aux États-Unis quand il y a eu la grosse sortie et le truc. Et j'entendais qu'il y avait un mec là-bas qui avait écrit un truc et ça marchait pas mal pour lui, mais j'étais loin de ça. Donc ça a pas changé ma vie. Ça m'intéresse pas, ce genre de truc.
On va parler de la vie de notre invité, ancien combattant des forces spéciales et ex-directeur du renseignement militaire, Christophe Gomard. Bonjour Christophe, merci.
Bonjour
monsieur.
Général.
Merci de venir à ce micro. Oui, d'ailleurs, vous avez un grade, je dois dire, mon général.
Alors, je suis général en deuxième section, c'est-à-dire que je suis rappelable. Mais voilà, je suis sinon Christophe Gomard, tout simplement.
Mais je ne peux pas dire mon général parce que je ne suis pas militaire.
Ah si, vous pouvez le dire. Les hommes disent mon général et les femmes général.
Oui, voilà. Moi, j'ai pas le droit de dire mon. Je me suis fait alpaguer comme ça dans une émission.
Je peux dire mon amour, mais pas mon général.
Je peux dire amour.
Vous avez publié Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales. Vous avez quitté l'armée en mai 2017. Comme Philippe Jean l'a reconnu tout à l'heure, il a lu un article, il ne s'est pas documenté sur les forces spéciales, mais que ça reste une histoire d'amour d'une personne qui est dans ses forces spéciales. Est-ce qu'on peut avoir une vie privée quand on est dans les forces spéciales, c'est-à-dire manipuler, faire des opérations ou être dans des secrets, et de l'autre côté avoir une famille, une vie intime, et de ne pas pouvoir parler intime et de ne pas pouvoir parler de son boulot à table?
Moi, c'est ce que j'ai bien aimé dans le livre, c'est la difficulté de communication du couple, au-delà de l'histoire d'amour, c'est celle-là. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne raconte pas tout et elle ne peut pas tout raconter. Elle est passionnée par ce qu'elle fait, elle est totalement engagée. Ce que nous sommes, enfin, dans les forces spéciales en général, les gens sont. Et de fait, il y a souvent des problèmes de communication. Et parce qu'on a deux êtres qui sont sur deux trajectoires opposées, ouais. Et ils se retrouvent, et c'est ce qui est beau dans cette histoire, c'est qu'ils finissent par, j'allais dire, fendre un peu l'armure. Et elle ne raconte pas tout, elle. Si, elle finit par l'incorporer à la fin du livre sur ce qu'elle, dans son aventure, dans son action, dans sa mission.
Oui, parce qu'elle est vraiment arrivée au bout du rouleau, quoi. Il y a un moment où, justement, ça. Mais ça laisse des traces. Votre métier est pas que des traces visibles. Donc, le besoin de penser les plaies, qu'elles soient psychologiques, affectives, mentales, on se retourne sur sa famille, j'imagine, non?
Ça, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on a besoin d'une famille, et je ne pense pas que j'ai eu la carrière qui a été la mienne si j'ai pas une famille sur laquelle je puisse m'appuyer, qui ne sait pas tout ce que j'ai fait, à qui je n'ai jamais tout dit ce que j'avais fait. Je pense que c'est pour ça que j'ai un peu écrit, d'ailleurs. C'était un peu pour témoigner de ce qui avait été ma vie, parce que j'ai des enfants qui sont arrivés plus tard dans ma vie, donc... C'était une manière de leur raconter ce qu'avait été ma vie avant de les avoir et ce qui est devenu ma vie après.
Les plus grands dangers dans votre métier, ce sont des dangers physiques. C'est parce qu'il y a beaucoup de morts dans le livre de Philippe Jean. Il y a beaucoup de camarades entre guillemets qui dans des opérations sont tués ou abattus ou disparaissent. C'est vraiment le quotidien des forces spéciales.
Oui, la vie est risquée. C'est d'ailleurs un peu ce qui donne l'adrénaline et ce qui permet justement de vivre cette passion. Le risque, il est à l'entraînement, il est aussi lorsqu'on est engagé sur les théâtres d'opération, avec malheureusement des gens qui sont tués. Mais je vais dire, on n'y pense pas avant d'y aller, on pense qu'on va s'en sortir, et puis malheureusement, certains meurent, heureusement en faible nombre.
Il y a des risques, il y a aussi des fiertés, des honneurs de sauver des vies, de libérer des otages, d'être aussi...
Vous savez, j'ai fait une conférence devant les jeunes du service national universel, parmi lesquels il y avait deux jeunes d'origine malienne, et qui m'ont remercié à la fin de cette conférence d'avoir sauvé leurs parents à Gao lorsque les forces spéciales sont entrées en janvier 2013. Ne serait-ce que ça. Ça fait vibrer, ça fait fondre le cœur, et on se dit que finalement on a bien fait.
Finalement, vous êtes sensible hein, pour un gars balèze là.
On est tous sensibles.
Le cœur qui vibre et tout. Moi, je crois que c'est dur là.
Est-ce que vous encourageriez
c'est ce qui nous rend humains.
Un jeune qui voudrait rentrer dans les forces un ou une qui voudrait rentrer dans ces forces spéciales, vous
l'encourage d'y aller parce que c'est une vie passionnante. C'est une vie certes risquée, mais c'est une vie passionnante et j'ai dit on s'éclate pour parler vraiment.
Non, et cette passion donc vous la transmettez dans votre livre. Ça s'appelle Soldats de l'ombre au cœur des forces spéciales. Merci et bravo pour ce que vous avez fait pour le bien des autres. Voici le héros du jour.
Alors mon héros du jour, Nagui, aurait pu être la famille Adams dont la suite des aventures sort en salle aujourd'hui. J'adore la famille Adams. Des personnages monstrueux et attachants à la fois qui ne sont pas sans me rappeler l'équipe de la bande originale. Donc on va éviter de faire ton sur ton et choisir un autre héros. Et mon héros du jour est un fromage, les amis. Oui, c'est le Roquefort. Pourquoi? Eh bien parce qu'il résiste. Il résiste contre l'oppression mondialo équito bobo nutritionnelle qu'on appelle le Nutri-Score. Oui, le Nutri-Score qui distribue des bons et des mauvais points en analysant le contenu, la source, l'ADN nutritionnel de chaque produit pour donner une note sous forme d'une lettre qui tombe sans prévenir, comme un couperet, des lettres de A à E pour le meilleur, A, E pour le pire. Et ce couperet est tombé sur le Roquefort. Roquefort dont la note Nutri-Score est un E. E qui va désormais figurer sur les emballages du divin fromage jugé trop salé et trop gras. E comme une lettre écarlate qui marque au fer rouge comme un sceau diffamatoire, un des fleurons de notre gastronomie. E pour le Roquefort, moins bien noté que le Big Mac de chez McDo qui hérite d'un C. Mais qu'est-ce qu'on cherche à la fin? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à euthanasier un savoir-faire, à étouffer une tradition, à vandaliser un patrimoine, tout ça au profit de la pasteurisation à outrance, de la transformation à gogo. Il y en a ras-le-bol. Du coup, moi, je rêve d'un monde rempli de produits classés E. Non! Mieux que ça! Je rêve d'un monde où règne la lettre F, qui n'existe pas. D'un monde où tous les fromages sont gras, sont salés, sont épicés. Oui, c'est ça. Des fromages qui respirent, des fromages qui nous régalent, des fromages qui inspirent tellement le bien à vivre qu'à l'intérieur de certains, on trouve même confortablement installés de délicieux asticots. Oui, vous nous faites tout chier avec vos classements castrateurs. Je refuse de manger du Nutri-Score classé A. Halte à la stigmatisation. Je veux du cholestérol, je veux de la moisissure plein mon fronton et du gras dans mes nouilles. Entrons en résistance, défendons le mal qui nous fait tant de bien. Le patrimoine est en danger, la culture gastronomique est mise à mal. Luttons, mes frères, et faisons tous du Roquefort pour ses valeurs de résistance à la dictature du manger chiant. Faisons tous du Roquefort, vous aussi, Nagui, notre héros du jour.
Merci, Daniel. Tanguy Pastureau, de quoi parles-tu aujourd'hui?
Eh bien, Nagui, vous savez ce qu'est de l'eau? De l'eau, c'est tout bête, c'est tout simple, ça ne coûte rien. Eh bien, figurez-vous que McDo, oui, les restaurants McDo, vendent l'eau à un prix incroyable.
Bande originale, Leïla Kadouboudi, Daniel Morin, votre serviteur, pour revivre les moments, le passage de Philippe Gillan dans cette bande originale, auteur de livres aussi, romancier bien sûr, auteur de chansons, on a parlé avec lui, il est avec nous jusqu'à midi et demi. Encore une musique est présente dans le livre, on peut en écouter plusieurs hein, d'ailleurs. On est dans une forme de méditation avec ses musiques. Hein. Bah, pas mal, c'est vous qui l'avez programmé.
Je suis content. Ouais.
Avec cette ces forces spéciales dont on a parlé tout à l'heure avec le général Gombard, il y a ce suspense entre guillemets dans que ce soit au sein du couple d'ailleurs ou au sein même de l'enquête diligentée par cette fille qui est dans les forces spéciales, Edith, qui joue sa vie, qui se teint, qui se cache, qui se planque, qui est exfiltrée. Enfin, il y a tout un suspense et il y a l'histoire quand même de cet auteur, alors que vous ne vous soyez pas documenté pour les forces spéciales, j'entends, sur la vie de l'écrivain, on peut pas s'empêcher d'imaginer qu'il y a beaucoup, déjà en musique, déjà dans les références d'auteur aussi, mais beaucoup de points communs avec vous.
Ce que j'ai bien aimé faire dans ce livre-là, c'est qu'on sait pas du tout quel genre d'écrivain c'est. Mmh. On sait pas ce qu'il écrit.
On sait même pas s'il s'inspire d'ailleurs de la vie d'Edith pour écrire. Ouais.
Ce qui m'a amusé, c'est de parler du fait de s'asseoir devant sa table et puis d'avoir des problèmes d'écriture. Mais on ne sait pas ce qu'il écrit. Donc ce n'est pas un poète, ce n'est pas un penseur, ce n'est pas un philosophe, on ne sait pas ce que c'est. Et ça, ça m'amuse, parce que ce qui reste, c'est que c'est très chiant d'écrire, hein. Vous savez ça, hein.
C'est ce que vous dites dans le livre.
C'est un boulot de dingue. Ouais.
C'est ce que vous dites dans le livre. Et d'avoir une lectrice qui tombe amoureuse dès la première lecture ou la première rencontre à un salon du livre et qui en devient dangereuse, suspecte, un peu à la Misery de Stephen King.
Ça ne m'est pas arrivé à moi, mais c'est arrivé à Stéphane.
Et Stéphane Escher, ouais.
Et comme cette fille-là n'arrivait pas à trouver le joint pour le contacter, elle venait vers moi. Et elle me suivait dans mes lectures pour me dire « Tu ne pourrais pas donner ça à Stéphane, tu ne pourrais pas ?» Et quand je lui disais « Mais attendez, elle me dit « C'est qui la femme à côté? Qu'est-ce qu'elle fout là ?» Ben, je dis « C'est sa femme, il est marié depuis... Ah bon? Non, c'est pas possible, c'est pas possible. » Et puis après, elle me disait « Mais tu sais, si je vais à tous ses concerts... » Alors elle faisait toute la France comme lui. Elle s'essayait au troisième rang sur la gauche et elle me disait « Tant qu'il ne m'a pas regardé, le concert foire. » Mais à partir du moment où il me regarde dans les yeux, ça y est, et donc les gens vont applaudir. Et voilà, et ça a duré 20 ans comme ça.
C'est inquiétant.
Non, c'est sérieux ce truc-là. En
Florence,
plus,
Florence, t'as arrêté depuis.
Ce qui est marrant, c'est que c'est pas du tout physique. Hein. L'érotomanie, c'est pas ça. Hein. C'est simplement penser que l'autre est amoureux de vous et qu'il n'ose pas vous le dire. Ou que les choses font qu'on n'ose pas. Et donc, c'est pas physique, c'est pas un truc physique.
Ça commence par un baiser dans votre livre.
Oui, mais moi, c'est une comédie, moi. Je fais ce que je veux. Je suis le seul maître à bord. Oui, un peu. Mais c'est un baiser gentil, quand même. Hein. Ça pourrait être plus violent. Vous n'allez pas me dire que dans un roman, si une femme s'approche d'un homme pour lui l'embrasser sur la bouche, on va pas... tout va bien, si c'est pas grave.
Non, mais s'il n'y a pas consentement...
Ça recommence.
Ah. Dans l'autre sens aussi.
Dans les deux sens.
Pas vraiment, mais il dit rien quand même.
Il la regarde en plus parfois un peu intéressée à certains moments.
Attendez, c'est une femme qui commence à vous dire, vous êtes... Toute ma vie, vous êtes mon Dieu vivant. Donc, même si on est très fort dans sa tête, on se laisse un petit peu... Alors, elle est belle, en plus. Hein. Mm-hmm.
Celui qui a le regard le plus intéressé, c'est le docteur, c'est le papa, c'est Georges. Qui, lui, profite des tenues Victoria's Secret.
Plus avec les vieux, parce que je commence à plus être jeune, donc à un moment, ça me prépare. Si je peux aller toucher les cicatrices, pourquoi pas? Attendez, s'il me reste que ça, pourquoi pas? Il faut chercher la beauté là où elle se trouve.
Juste
sur votre droite.
Donc,
ah, vous êtes recoiffé, vous. Tout à l'heure, j'ai cru qu'il nous arrivait un truc, qu'elle avait explosé un truc dans son chignon.
Elle, oh, elle a explosé un truc.
J'ai eu peur.
C'est vrai, ça lui arrive.
Enfin, Philippe,
j'ai eu peur.
Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est vrai. Philippe Dihian, qui est dans ses romans comme il est dans la vie. Ouais, c'est ça. Non, c'est-à-dire que vous. Et vous chopez des situations, vous chopez des phrases. Est-ce que vous notez d'ailleurs des choses au quotidien, comme pourrait le faire un auteur de chansons, en disant, non, tiens, j'ai une punchline ou j'ai une idée, je vais la noter pour pas l'oublier?
Non, non, parce que c'est souvent n'importe quoi faire ça. C'est comme on le dit toujours, est-ce que, comme j'ai habité dans plein de pays et d'endroits différents, on me dit, mais est-ce que tu te sers du cadre et tout ça? Et j'explique que non, parce que je veux pas me servir. Par exemple, quand j'étais dans le Sud-Ouest, j'allais à des corridas parce que les mecs de Sud-Ouest voulaient absolument que je rencontre ça. Et je sais que sur le moment, j'ai pas pu écrire là-dessus. Et je l'ai écrit quand j'habitais en Suisse, parce que je pense que ce qui est intéressant, c'est de garder que ce qui vous a vraiment marqué. Alors que si vous écrivez à froid sur tout ce que vous voyez, vous faites un gros machin. Et l'idée, c'est pas de faire un gros machin, surtout quand on n'est pas un auteur qui a des causes particulières à défendre. Donc je veux simplement garder ce qui m'a frappé.
Les femmes sont le moteur de ce roman, comme souvent chez vous?
Bah heureusement, et toujours, évidemment que c'est les femmes. S'il n'y avait pas les femmes, quel monde de merde. Attendez, il ne resterait plus que le Covid.
Il
n'y
aurait, aurait pas de monde, quoi. Surtout. S'il n'y avait pas les femmes, il n'y aurait pas de vie. Voici le nouveau temps qui passe pour aujourd'hui.
L'autre jour, à midi, j'ai eu envie d'accéder à la beauté, de me caresser l'iris, comme quand on regarde un tableau de Monet qui peignait des plantes et des fleurs, c'était le silence ça pousse de l'époque. J'ai donc mis le JT de 13h de Julien Bugier sur la 2. Ah, Julien Bugier. Il a tout. Un visage parfait, une voix grave et chaude, un regard doux. Il me fait tellement l'effet d'un feu de cheminée en janvier que si je le croise un jour, je pense que je lui jetterai une bûche. J'étais donc là, à l'écouter parler, tout en faisant la vaisselle, nu avec juste des gants de vaisselle. J'ai appris qu'on faisait comme ça après avoir vu plusieurs films d'Orcel où ça se pratiquait ainsi. Ensuite, une dame arrive et dit à monsieur, voilà ma gratounette. Enfin. Vous savez, hein, la vaisselle est un moment chargé d'érotisme. Il faut savoir que les préados connaissent en général leur première érection devant Bob l'éponge. Donc je regardais le JT de Julien Bugier. Il y avait un reportage intitulé « Évasion week-end » qui proposait de découvrir la Normandie. Alors la Normandie, c'est comme Dubaï, mais sans soleil et avec des impôts. Un envoyé spécial à Étretat témoignait sous la flotte que la Normandie, c'était génial. Il était trempé, donc je pense que le directeur de l'office du tourisme d'Étretat le tenait en joue depuis le haut de la falaise. Julien Bugier a aussi parlé des cookies. Un reportage montrait un chef français à New York spécial spécialisé dans le cookie. Et là, Julien Bugier a dit, eh oui, il y a toujours un Frenchie quelque part. Phrase qui va avec tout. Un reportage à Pattaya où au milieu des mineurs qui dansent, il y a un monsieur venu de la Somme. Ça marche aussi, donc c'est très pratique. Et à un moment, Julien Bugier a pris sa tête sérieuse. Donc on a senti qu'on allait partir d'Étretat. Je me suis dit, ah fuck, ils vont encore faire un truc sur les talibans, j'en peux plus. Moi, de ces mecs qui ressutent, sapés dans du lin, si je veux voir des gens comme ça, j'ai suffisamment d'intermittents du spectacle autour de moi. J'ai voulu zapper, mais impossible, j'avais mes gants de vaisselle. Là, Julien Bugier a dit, je veux vous parler d'un scandale. J'ai frémi de terreur. Qu'avait-il pu se passer? Si ça se trouve, un des Frenchies qu'on trouve toujours quelque part avait dérapé. Il avait répondu non à Amsterdam à un dealer qui proposait du shit, donc son comportement suspect avait alerté les autorités. Mais Julien Bugier a dit, oui, scandale, l'enseigne McDonald's vend l'eau très cher. Donc première chose, je me suis dit, aller chez McDo pour boire de l'eau, ça revient à traîner dans une librairie de manga quand on cherche à acheter le Grand Mône. Enfin, si on va chez McDo, c'est pour se remplir le bide jusqu'à en faire péter sa cicatrice d'appendice. Je suis sûr que si un jour un djihadiste qui déteste ses explosifs, parce que c'est très lourd à porter, on n'en parle jamais, mais enfin, voilà, cherche à se faire exploser de cette manière, il pourrait demander 12 cheese, 5 menus de luxe, et là le manager du McDo crierait tous à terre, c'est un attentat. Pour moi, un type old school, je rappelle que j'ai vécu l'époque de la sortie de l'album des Sœurs Natives. Le McDo, c'est pour faire du mal à ses organes. C'est une forme de sadomasochisme de l'intérieur. On mange en criant prends ça, sale foie, et toi aussi, intestin, tu étais vilain. Oui, oui, très vilain. Mais figurez-vous que depuis peu, McDonald's veut changer son image. Mais je sais pas pourquoi. Donc, ils vendent des salades, que personne n'achète, hein, des pommes découpées en tranches, parce qu'ils pensent qu'on est trop con pour manier un couteau, hein, à 25 ans là-dedans, on vous traite comme à l'EHPAD. Je pense que si vous demandez, une dame vous change, hein, tandis qu'Yves Dutheil en arrière-plan vient chanter ses plus grands succès. Donc, de la salade, une pomme, vous allez chez McDo, vous avez la vie du Dalai Lama, le jour où il a décidé d'arrêter les excès, quand la veille, il a craqué pour un bounty à la gare de Montluçon. Et en plus, maintenant, ils vendent de l'eau. Mais plus en bouteille plastique.
plastique, puisque le plastique est de plus en plus interdit. Hein, c'est pour ça que les influenceuses quittent la France, parce que leur corps, ça passe plus. Non, ils vendent en gobelet carton ce qu'ils appellent l'eau by McDo. Hein, alors, dès que vous mettez by, ça fait classe. Passion de feu by Dior. Ah, même plateau repas by Air France, on dirait miam. Hein, y a que Nathalie by, on comprend pas quoi. By quoi? Enfin, je veux dire, enfin, jusqu'au bout de la démarche. Hein. Donc, l'eau by McDo, c'est classe. On se dit, ils sont allés puiser à la source la plus pure. À un moment, sur le chemin, ils ont croisé un mec de Quézac, ils lui ont dit, barre-toi maintenant avec ton eau dégueu qui s'appelle Oreo, ta gueule. Eh bien non, le JT de 13h a enquêté, l'eau by McDo qui coûte 2,75€ les 50 centilitres, c'est en fait de l'eau du robinet. Oui, le bon vieux robinet, celui qui t'empêche de dormir quand il goûte et que tu n'as qu'une pièce parce que tu es pauvre. Hein, il la filtre, si vous la voulez pétillante, je pense qu'il y a un type qui s'ouvre dans le gobelet avec une paille, et hop, elle est vendue 6€ le litre, alors qu'elle coûte en réalité 0,003€ de litre. Ça, c'est de la marge, baby. C'est comme quand un chanteur vous refourgue un album dépouillé, où on l'entend seul avec un triangle à 19€, le même prix qu'un album avec 120 corps de chasse. Donc, interrogé, McDo a dit oui, non, d'accord, mais bon. Un responsable dans le reportage dit quand même, attention, il s'agit d'eau filtrée plus. Voilà, donc il y a 12 précaires avec chacun un tamis hein, dans lequel passe l'eau. Ensuite, une jeune vierge la contemple pendant 7 heures. Un druide invoque Borvo, le dieu celte de l'eau, hein, celui dont Gérard Depardieu dans Astérix a refusé de prononcer le nom afin de respecter ses convictions personnelles. Et là, enfin, c'est bon. Alors, bien sûr, des gens de gauche se sont insurgés. Mathilde Panot, députée France Insoumise, a dit « L'eau est à nous tous, pas aux multinationales. » Ouais, oh, non, ok, mais là, c'est l'eau by McDo, hein, quand même. Alors, peut-être ensuite, ils vont lancer le lait by McDo, hein, 22€ le verre de Lactel, et ils diront qu'ils ont mis 80 filtres sur chaque pied de vache. Hein, les bêtes seront à 4 mètres de haut. Alors, moi, pour McDo, je propose boycott by Pasturo. Hein, c'est pas bon, c'est gras, et le clown Ronald est terriblement effrayant. Et si vous voulez de l'eau, restez chez vous, parce que McDonald's, je suis désolé, mais on y va pour dérouiller son bidou et pas pour consommer sainement. C'est un truc qui se passe entre un individu et son putain d'intestin.
Merci, d'organisation. La bande originale de votre matinée revient sur Inter juste après Call Me
The Blondie, mythique.
Allez,
dansez.
Déborah Harry, de son vrai nom, Blondie pour le groupe, Call Me, c'est maintenant. C'était Call Me de Blondie dans la bande originale de Philippe Djian.
Call Me.
Chez Flammarion, nouveau livre de Philippe Djian, Double Nelson. Je disais tout à l'heure, mais avec plaisir, c'est loin d'être un reproche, qu'il y avait un rythme dans votre écriture, comme un rythme dans vos publications. Vous vous l'imposez, ce rythme. Vous avez, tout à l'heure, vous m'avez dit, je ne note pas. Et, vous avez donc, j'imagine, une position de travail ou un bureau dans lequel vous vous installez pour travailler. C'est aussi une question de tempo d'écrire un roman.
C'est un roman réussi, oui. Si un roman n'a pas de tempo, le roman, il n'est pas réussi.
Ça, c'est à l'intérieur. Et se dire tous les ans, je sors un roman, ça, c'est aussi une exigence que vous vous êtes donnée.
C'est une exigence financière, voyez-vous, parce que je vis dans un pays où il n'y a aucune aide pour les écrivains et que je ne pourrais pas me permettre de faire comme certains super bons Américains qui arrivent en vous disant « j'ai mis 7 ans à l'écrire ». Moi, je ne peux pas faire ça. Je suis obligé, tous les ans, de recommencer à travailler, de republier un livre. Et l'autre fois, je disais à Antoine Gallimard, t'as qu'à me payer le double, comme ça mes bouquins, je les ferai deux fois plus gros, il n'y a pas de problème, je mettrai un peu plus de décor et un peu plus... Donc, cette obligation de gagner sa vie en écrivant fait que, justement, ça joue sur la langue et sur le style. Pourquoi ouais. J'ai plus envie d'écrire sur des décors, parce que ça m'a tellement ennuyé d'être obligé de décrire des choses qui m'amusaient pas. Maintenant, je peux les enlever et les livres font plus que 250 pages. Mais si je vous faisais un vrai livre classique, tout ça, il en ferait 500.
Un écrivain, c'est un emploi comme un autre.
De cette en tout cas, c'est honnête, de le dire comme ça, parce que les auteurs ne parlent pas comme ça, oui.
Lesquels? Bon, enfin bref, pardon.
Non, mais après, on peut imaginer qu'on consacre un peu plus de temps à un roman en espérant qu'il rencontre un franc succès qui fait que... Non, mais c'est pas simple, en fait.
Je sais pas, tout à l'heure, à l'instant, vous me disiez, il y a des écrivains qui pensent pas comme ça. Moi, quand j'écris, je me dis pas, est-ce que ça va avoir du succès? Est-ce que ça va marcher?
Non, mais vous dites, j'écris parce qu'il faut que j'en sorte un tous les ans.
Ouais. Et ça, c'est bien. Ça me gêne pas. Je sais pas ce que je pourrais faire si c'était la même taille de livre, ça voudrait dire que pendant 6 mois, je fais rien, je me tourne les pouces, j'ai pas envie.
Ou 2 ans, non, mais ça peut être.
Enfin, il y a pas long.
J'ai pas envie.
Non, mais on parle pas de. C'est rare aussi de parler en termes de poids. Ouais. J'ai envie de dire nombre de pages. C'est rare.
J'aime bien lire les livres qui sont pas trop gros, parce que comme en général je lis en me couchant et que quand je m'endors, j'aime pas prendre le bouquin sur la gueule.
Il n'est pas trop lourd.
Je préfère qu'il soit pas trop lourd. C'est pour ça que j'arrivais pas à lire un truc super qu'on vient de m'acheter. C'est une bande dessinée du Mahabharata. Ce truc-là, si vous le prenez sur la figure, ça fait mal.
Ah bah, vous pouvez dormir très longtemps.
Donc, il vaut mieux un petit bouquin sympa, qui quand vous vous endormez, vous pouvez vous évader, j'espère, ou dormir d'une nuit, faire une nuit agréable.
Moi, là, je suis sur le catalogue publicitaire des 15 jours au champ, je dors très très bien. 3 pages.
Autre événement culturel, Leïla Kadokoudadi.
On va parler d'un jeune étudiant en criminologie en Angleterre dont le domicile recelait plus de 70 000 documents relevant de l'idéologie nazie. Ah. Ce jeune homme a été condamné, mais condamné à quoi, d'après vous? C'est assez surprenant.
S'instruire.
Oui, d'une certaine façon, en faisant quoi?
À visiter Auschwitz.
Non.
Non.
C'est une punition assez étonnante. À s'instruire, c'est-à-dire...
Il devait lire, je sais plus quoi, mais...
Il devait, absolument. Il a été contraint à lire des livres, et notamment Shakespeare. Voilà, là. Alors, il a pris quand même 2 ans de prison avec sursis. Et il devait lire des grands classiques de Shakespeare, de Jane Austen, de Dickens ou encore de Thomas Hardy. La prochaine audience, c'est le 4 janvier. Et le juge a décidé de tester à cette occasion ses lectures pour voir si vraiment il a fait le boulot.
Est-ce qu'il a compris? Philippe Jean, vous n'êtes pas d'accord avec ça?
Non.
Moi, je trouve ça complètement dingue de penser que lire Shakespeare, c'est une punition.
Alors,
c'est comme ça.
Non, c'est une rééducation.
Oui, non, quelque part, c'est il espère que ça va pas. C'est pas chouette. Il m'a donné une super lecture. Je vais m'amuser pendant.
Non, ça va le sortir de son néo-nazisme.
Quelque part, quand même, je trouve que c'est une espèce de conception de ce que c'est que la joie, le plaisir de lire des choses bien. Ça la ramène à un truc. T'as pas été gentil, ou t'as fait ci et t'as fait ça, donc tu vas lire l'Excel, ça va te faire du bien.
Mais ils auraient dû faire ça, mais clair, en fait. Un petit Catherine Pancol et hop, c'était réglé.
Ouais.
Ben voilà, exactement.
Est-ce que la littérature, elle peut sauver, d'après vous? Est-ce que lire un bouquin, est-ce que ça s'est déjà présenté dans votre vie, vous a fait changer d'avis, vous a fait voir les choses autrement, et donc peut faire espérer évoluer?
Ouais, je sais pas si ça peut changer les vies. Moi, je sais qu'à un moment, j'étais en fac, j'étais à Vincennes et j'avais jamais lu Salinger, et j'ai ouvert le bouquin, j'ai commencé à lire La Trappe-Cœur, et je me suis barré et j'ai dit, je ne remettrai plus les pieds ici parce que ici, j'apprends rien, alors que là, en quelques pages, j'ai appris ce que c'était que la littérature, ce que c'était qu'écrire pour avec une certaine je sais pas, de faire passer de l'émotion et tout ça. Moi, quand j'avais ce jeune garçon dans la trappe-cœur qui a peur de traverser la rue, ça me touchait, ça me parlait et ça me faisait grandir. Et après, quand certains journalistes me demandaient pourquoi t'écris comme ça et tout ça, je disais parce que des gens comme Raymond Carver m'ont appris à traverser la rue. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire que quand on se nourrit bien au niveau simplement de la littérature, quand on se nourrit bien, on ne traverse pas la rue de la même manière que quelqu'un qui lit des conneries ou que quelqu'un qui lit pas du tout. Pourquoi ? Parce que quand on a lu Raymond Carver, je pense qu'on n'est pas là à attendre le feu rouge, à regarder si le flic vous permet de passer. On va peut-être regarder les arbres en face ou une jeune femme qui passe, qui est assez jolie, ou je sais pas. On traverse la rue différemment. Donc ça change une vie, oui.
Ça s'appelle Double Nelson. C'est un bon livre qui vous assommera pas quand vous le lisez en dormant. Et d'ailleurs, on a du mal quand même à le lâcher, puis on a du mal à dormir. Et puis il se lit avec une vivacité. Et j'imagine la vivacité avec laquelle vous l'avez écrit.
Ou c'était plus bien.
Non, c'était, non c'est plus difficile.
Non, au contraire, c'est le labeur, la c'est pesanteur. C'est dur d'être léger.
En tout cas, on le ressent pas. Ça, c'est une réussite. Double Nelson chez Flammarion, Philippe Gillan. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Désolé pour tous les couples qui, après la lecture de Double Nelson, voudraient construire une histoire qui commencerait par une baston. Alors, pour info, Morgane, quand elle m'a rencontré, m'a cassé un tibia, elle m'a crevé un œil, brisé la nuque, rasé le crâne, et vous avez raison, ça marche, je l'aime tellement. Oh oui, cogne-moi, Momo. Désolé pour tous ceux qui voulaient lire le livre de Philippe Gillan de façon, allez, pépère, détendue. Eh ben non, vous l'avez entendu, à 11h25, il l'a dit. Pas de ponctuation, faites un effort, je veux que la lecture dérange. Voilà, les gars, faites gaffe à ce que vous faites. Je m'en fous du sens des mots, compris ? Ok, vous allez en chier. Point d'exclamation, c'est tout ce que j'ai à dire. Désolé pour Morissette, on l'a compris, toutes les Morissettes, ce matin, malgré la chatoyance de votre état civil, vous n'apparaîtrez jamais, jamais, jamais dans les livres de Philippe Gillan. Il veut pas. Désolé, enfin, pour Marie Laforêt, dont le talent a été souillé par Philippe Gillan. La pauvre, elle reprend une chanson et bim, un écrivain parolier suit ce fil, la piétine, monde de merde. Alors en même temps, là, à l'écoute, je vous regarde, Philippe, et je vous comprends.
Merci, Philippe Gillan, c'était un plaisir. Ouais, nous aussi, partagé, et pour une première, j'espère qu'il y en aura beaucoup d'autres comme ça, en tout cas, dès que vous le souhaitez.
Une fois par an.
Quand il veut.
Voilà, une fois par an.
Quand vous voulez, parce qu'il y avait plein de choses encore à dire qu'on n'a pas eu le temps de faire, mais vous plongez-vous dans Double Nelson, chez Flammarion, signé Philippe Gillan. Le meilleur de la bande originale, c'est fini pour aujourd'hui. C'est demain, fini. Nous serons là à la même heure, même endroit, avec Agnès Surstel.
C'est ma femme.
Mais là, voilà. elle est en invitée, d'accord. Et également Jonathan Lambert. Alors,
j'ai
mon
adoré cette émission, voilà. J'étais pas là.
Très bien.
Bonjour les
C'est ça. Oui. Agnès Surstel, Jonathan Lambert, ça sera demain. Passez une belle journée sur Inter.